Bonsoir. Donc, merci d'être venus si nombreux. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Caroline Puel à l'occasion de la parution de son ouvrage « Les 30 ans qui ont changé la Chine » aux éditions Buchet-Chastel. Donc, Caroline Puel est journaliste. Vous enseignez à Sciences Po. Et après, ça fait près de 30 ans que vous fréquentez, entre guillemets, la Chine. Et après un premier détour par la diplomatie, vous avez fini par fonder le Bureau commun de libération et du point en Chine au milieu des années 90. Donc vous nous livrez avec ce livre une synthèse assez passionnante des 30 dernières années en Chine, sous tous les points de vue, aussi bien politique, économique, culturel et jusque dans la vie quotidienne, qui nous permet d'avoir un regard très précis et qu'on n'a pas souvent sur la Chine. Donc pour commencer, il me semble qu'il y a une ombre ou une présence qui plane tout au long de ce livre, c'est celle de Deng Xiaoping, qui est donc présent et très actif, on va dire, durant la première moitié, la première quinzaine des années 80 ou des années 90, mais qui reste présent même après sa mort par une sorte de testament politique dont on continue à sentir encore aujourd'hui les conséquences dans la vie politique chinoise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette figure étonnante ?
D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas encore. Et merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, pour répondre à votre question rapidement, je pense que, en fait, c'est important de comprendre que dans le système chinois contemporain, on est dans une perspective de très long terme et on se place dans la perspective d'une volonté de restauration d'un empire ancien. C'est-à-dire que les Chinois ont un rapport au temps qui est très différent du nôtre. Ils ont une perspective après, à long terme, qui est longue. Donc aujourd'hui, ils sont déjà en train de se projeter vers ce qu'ils feront vers 2020, vers 2030. Mais à l'inverse, ils sont aussi... ils ont placé la période actuelle au regard de ce qui s'est passé dans le passé. Et le passé, pour eux, c'est, de leur point de vue et de ce qui a été reconnu, c'était quand même déjà l'existence d'une grande puissance qui a exercé une influence très importante, mais à une époque où le monde n'était pas, comme aujourd'hui, mondialisé, où Internet n'existait pas. Et donc c'était, disons, la grande puissance de l'Extrême-Orient, dont les influences se faisaient déjà sentir au moment de l'Empire romain, avec les premiers échanges, puisque c'est une civilisation très ancienne, en tout cas la plus ancienne à exister encore aujourd'hui avec la civilisation égyptienne. Et Deng Xiaoping, pour répondre à votre question, s'est situé un petit peu comme point central de cette période de ces 30 années. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut voir qu'en fait, la période clé de l'Empire chinois a commencé à décliner à partir du XVIIIe siècle. Et que le XIXe siècle a été une période extrêmement agitée pour la Chine, avec celle d'invasion, notamment d'invasion occidentale, très mal vécue par les Chinois, vécue comme des périodes d'humiliation, avec les fameuses guerres de l'opium, les concessions étrangères, des choses que souvent nous ignorons, nous les Occidentaux, parce que nos livres d'histoire ne nous le rappellent pas forcément. C'est pour ça que je me suis permis de l'évoquer un petit peu dans l'introduction. Il y a quand même des événements clés, comme le sac du Palais d'été, que les Chinois connaissent très bien, qui a été vécu un petit peu, il faudrait, pour comprendre ce qu'ils ont ressenti, imaginer ce que nous aurions ressenti si des Chinois avaient débarqué pour mettre à sac le palais de Versailles, qui serait un petit peu l'équivalent. Et en revanche, les Chinois vivent avec cela en permanence, puisque la propagande le leur rappelle quotidiennement depuis la maternelle. Et puis le XXe siècle a également été très agité, puisque nous nous situons aujourd'hui dans l'année centenaire de la Révolution chinoise, qui a eu lieu en 1911, Et à partir de là, ça a été un siècle de soubresauts, de luttes internes extrêmement importantes, doublées d'une guerre civile et de l'invasion japonaise, jusqu'à l'arrivée du régime communiste en 1949. Et là, les choses n'étaient pas terminées, puisque en fait, les 30 premières années de régime communiste ont été aussi des périodes de troubles très profonds, dont on connaît particulièrement la révolution culturelle, donc entre 1966 et 1976. Et en gros, cette période de troubles profonds s'arrête avec la mort de Mao en 1976. Et peu avant sa mort, il y a un homme qui a compté avant Deng Xiaoping, qui était Chu Enlai, qui était en fait le premier ministre et dans une certaine période le ministre des Affaires étrangères, et qui avait décidé de redresser les choses. Et en fait, d'une certaine manière, Deng Xiaoping a repris le flambeau de Chu Enlai, puisque Chu Enlai a laissé un testament politique en demandant qu'avant la fin du XXe siècle, la Chine ait retrouvé sa place et compte parmi les économies principales du monde moderne. Et Deng Xiaoping, après une bataille interne un petit peu compliquée pour avoir le pouvoir, est finalement donc arrivé aux commandes de la Chine à la fin de l'année 79. Et c'est pour ça que je fais démarrer le livre en 1980, après cette longue introduction qui vous rappelle tout ce que je viens de vous résumer, et que s'ouvre donc la période des 30 ans de réforme que j'amène donc jusqu'à aujourd'hui pour vous expliquer, pour que vous compreniez finalement ce qui se passe dans cette Chine qui est en train de prendre ou de reprendre une place clé sur la scène internationale. Donc Deng Xiaoping devient l'héritier du message de Chu Enlai et décide de mettre en place toutes les bases pour assurer les réformes et l'ouverture de son pays. Et finalement, cette période de 30 ans de réforme, si on essaie de la synthétiser, elle correspond assez bien aux trois décennies que l'on a traversées, les années 80, les années 90 et les années 2000. Alors les années 80, c'est la première vague des réformes, le moment où en fait on se remet dans un contexte international de fin de guerre froide, le moment où Gorbatchev est en train de lancer la glasnost et la perestroïka, où les informations commencent à filtrer, et où donc le monde intellectuel chinois qui à son tour commence à s'ouvrir, le monde intellectuel et étudiant, entre en ébullition et se dit nous aussi, on va aller vers le monde occidental. Il y a donc un énorme mythe de l'Occident à cette époque-là, et on va aller vers la démocratie. Or, il y a à cette époque-là encore des luttes internes très importantes au sein du régime chinois, une bataille entre les réformistes et les conservateurs, que Deng Xiaoping essaie d'arbitrer, mais malheureusement, les conservateurs l'emportent, et c'est donc le massacre de Tiananmen en 1989 que vous avez tous présents à l'esprit. Mais souvent, on a présenté ce massacre comme une nuit de troubles et de morts sur Tiananmen. En fait, ça a été beaucoup plus long, puisque cela a été accompagné par pratiquement 2 ans de répression extrêmement intense, que j'ai appelé la terreur blanche. Et c'est pour ça que je fais passer cette première période, je la fais finir à la fin de l'année 1991. Et puis ce même Deng Xiaoping, qui est quand même, qui a à la fois le poids d'un empereur, il est très respecté, et qui a quand même une caractéristique, c'est d'être extrêmement visionnaire, bien qu'il ait lui-même ordonné la répression sur Tiananmen, ne peut pas se résigner à quitter le pouvoir en voyant son pays dans l'état de déprime nationale dans lequel il est rentré avec cette répression de Tiananmen. Et il a à l'époque 88 ans et il reprend son bâton de pèlerin, si je puis dire, enfin un drôle de pèlerin, et il va dans le sud de la Chine et il relance le message en disant que la Chine doit véritablement s'ouvrir sur le plan économique, mais il propose en quelque sorte un pacte social aux Chinois, un nouveau pacte social, et il leur dit « Ok, allez-y, enrichissez-vous, allez vers l'économie, créez des sociétés, faites ce que vous voulez sur le plan économique, mais ne touchez plus à la politique. » Sans quoi, à nouveau, vous aurez cette terrible répression. Et toute la jeune génération chinoise, qui avait donc pendant 10 ans tellement cru à cette ouverture, puis qui a été tellement cassé finalement par cette répression, réalise qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie que d'adhérer à ce qui lui est proposé, et donc va plonger avec toute l'énergie qu'elle avait dans ce projet un petit peu étrange, dont pendant plusieurs années les Occidentaux ont pensé qu'il ne tiendrait pas, que la Chine forcément passerait du régime communiste au capitalisme et à la démocratie, et finalement donc rentre avec cette énergie dans ce projet. Et ce sont donc les années 1990 que j'ai appelées les années karaoké. Vous savez sans doute ce que c'est que les karaoké, puisqu'en fait, c'est les années où les Chinois, à défaut de pouvoir parler politique et de pouvoir échanger des idées très intellectuelles, vont rentrer dans le consumérisme absolu qui leur est proposé et dans la société des loisirs. Et c'est un chamboulement fondamental dans la société chinoise, qui était une société puritaine, extrêmement vissée de tout point de vue, qui tout à coup va vivre sa révolution sexuelle, va être totalement chamboulée par un exode rural gigantesque, qui amène pratiquement un tiers de la population. Alors on parle quand même d'une population d'un milliard et demi d'habitants, donc plus que toute la population européenne aujourd'hui, qui va quitter les campagnes pour aller vers les villes, avec donc des conséquences extrêmement importantes. Et donc c'est tout le chamboulement des années 90. Et puis la présence de Deng est toujours présente, puisque avant de se retirer du pouvoir, peu avant sa mort, il a, pour s'assurer que la Chine poursuivrait bien sur les rails qu'il a initiés, il a nommé son équipe de successeurs, mais avec un régime politique extrêmement particulier, qui est en fait un espèce de régime bicéphale, où vous avez un président qui est censé être un homme de consensus, un premier ministre qui est censé être l'homme des réformes, et autour de ces deux hommes, une équipe qui varie selon les périodes, entre 7 et 9 personnes, qui sont censées être un petit peu les sages, mais qui en réalité sont aussi les représentants de toutes les factions, dont on a rarement idée en Occident, puisqu'il y a en fait au sein de ce parti unique énormément de factions qui s'opposent. Et donc ainsi va le régime chinois, qui était donc un régime collectif. Et pour s'assurer que cela va durer, donc ça a fini de répondre à votre question, pourquoi l'influence de Deng est encore sensible aujourd'hui. Il a non seulement nommé ses successeurs immédiats, mais il a également nommé ceux de la génération qui ont suivi, qui sont donc arrivés au pouvoir en 2003 et qui devraient se retirer, si tout se passe comme prévu, l'année prochaine, en 2012, pour permettre à la génération suivante de prendre à son tour le pouvoir, mais toujours sur le même modèle d'un pouvoir collectif.
Alors justement, puisque vous évoquez donc cette perspective de 2012, alors qui va être un moment très important de renouvellement de la classe politique chinoise, depuis votre connaissance intime, justement, et dont vous rendez très bien compte de tous ces jeux de factions, de clans au sein de la direction chinoise, quelles sont les perspectives que vous voyez se dessiner? Est-ce que va y avoir une lutte de clans importante comme au tournant des années 80-90 ou est-ce que ça serait une transition plus douce? Est-ce que vous notez par exemple que sur lors du 17e congrès, le contenu idéologique était par exemple particulièrement faible? C'est-à-dire qu'il y a plus, les luttes sont moins apparentes qu'elles ne l'étaient auparavant.
Oui, c'est parce que, en fait, dans les années 80 et jusqu'à la fin des années 90, il y avait véritablement encore une lutte idéologique au sein du régime chinois pour savoir si véritablement on allait vers la société de consommation, on poursuivait les réformes ou pas, ou si on restait dans un système planifié de type communiste. Cette bataille aujourd'hui n'existe plus. Tout le monde est d'accord sur le principe que la Chine doit continuer à avancer vers la mondialisation et donc s'ouvrir vers le reste du monde et ouvrir également son économie. En revanche, les batailles de pouvoir existent tout autant que chez nous. Alors, elles ne se règlent pas à coup de classe business en avion, mais en tout cas, ils ont l'équivalent et parfois pire. Mais cela ne paraît pas, évidemment, dans la presse. Ce sont des batailles feutrées, puisqu'il s'agit d'un régime incroyablement opaque. Mais donc, si tout se passe comme prévu, s'il n'y a pas d'incident de parcours, on va voir l'année prochaine, à l'automne 2012, un changement complet de génération qui va avoir lieu non seulement pour le pouvoir central, mais également dans toutes les provinces. Donc ça signifie en fait près de 3000 personnes qui vont changer de position et surtout donc l'arrivée au pouvoir de la génération d'après, puisque avec le système chinois, vous avez une génération qui reste grosso modo au pouvoir pendant 10 ans. Enfin, entre le moment où ils sont nommés et le moment où ils prennent réellement leurs fonctions, ça réduit un petit peu les choses, disons 8 ans et demi, mais suffisamment pour pouvoir mener les choses. Et je dirais que c'est la force. Cela ne veut pas dire que je suis une admiratrice invétérée du système, mais il faut reconnaître que c'est la force du régime chinois aujourd'hui qui, avec un système de ce type-là, peut avoir des stratégies à long terme puisqu'en fait, les projets ne vont pas être remis en question par les hommes, même s'il y a bataille réelle pour le pouvoir. Alors évidemment, là, on est dans ce qui serait un petit peu l'équivalent d'une campagne, hein, une campagne non électorale, mais néanmoins une campagne. Et donc, il y a en permanence des tensions, des choses qui apparaissent à la surface. Et la bataille aujourd'hui se livre plutôt pour rentrer dans le fameux camp des sept sages dont je vous ai parlé. Puisque, en principe, s'il n'y a pas accident de parcours, le successeur du président est déjà désigné et le successeur du Premier ministre est également désigné. Il est d'ailleurs venu en France récemment et en Europe pour faire des investissements importants qui d'ailleurs, ont fait couler beaucoup d'encre.
Alors, pour revenir plus sur la société civile chinoise, donc vous avez très bien décrit ce mouvement par lequel, aboutissant à la répression de Tiananmen, il y a eu une sorte de transfert vers la question de la consommation et des loisirs. Comment décririez-vous justement les années 2000 et les années à venir, alors que depuis l'Europe, on voit quand même apparaître un certain nombre de crispations autour de la question des salaires, autour des questions de grève et autres, qui jusqu'ici n'apparaissaient pas du tout?
Alors effectivement, ce sont les conséquences des réformes qui sont en train d'arriver. Mais ce qui est important, c'est de voir que le processus est d'une rapidité exponentielle et que tout donc arrive un peu comme prévu, mais beaucoup plus vite que prévu. Donc ces années, je vous ai dit que les années 80, c'était la première phase des réformes. Les années 90, le bouleversement de la société. Les années 2000, ça a été les années de la renaissance de la grande puissance. Donc l'entrée dans ce projet de très long terme, puisqu'il avait déjà été le projet de Sun Yat-sen il y a 100 ans. De redonner à la Chine, de faire retrouver à la Chine sa grandeur passée, de recréer l'Empire. Donc c'est effectivement tout ce que l'on a pu observer au cours de la décennie dans laquelle on est, avec un élément, deux dates clés à retenir. L'année 2001, qui est l'année de l'entrée de la Chine dans la mondialisation, qui se fait à la fois sur le plan psychologique pour les Chinois, par des choses qui nous ont peut-être un peu échappé, mais qui étaient notamment le fait qu'ils ont eu l'autorisation d'organiser les Jeux Olympiques, qui est devenu pour eux un élément majeur dans leur prise de conscience de l'entrée dans le reste du monde. Et puis l'entrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui de facto a amené la Chine à rentrer dans l'économie de marché, à ouvrir ses frontières, à faire tomber l'importance de ses douanes et à pouvoir également investir à l'extérieur, ce que nous voyons aujourd'hui quotidiennement. Et il y avait un élément qui n'était pas prévu dans le scénario, qui était la crise économique mondiale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Et donc à partir de 2008, il y a eu véritablement une accélération totale de l'histoire dont on n'a pas encore totalement perçu l'ampleur en Occident, mais dont les Chinois n'ont pas non plus encore complètement digéré les effets. Puisque comme je vous l'expliquais, les Chinois ont cette capacité à se projeter dans le temps. Et donc, ils avaient prévu, en tout cas, leur objectif était d'arriver à être l'équivalent des États-Unis au milieu du 21e siècle. Ils pensaient être à la place où ils sont aujourd'hui, aux alentours de 2030. Mais voilà qu'en fait, le processus arrive en 2010, donc avec pratiquement 20 ans d'avance. Tout cela parce qu'on a observé un véritable mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'à la fois les principales économies occidentales dont nous faisons partie, l'Europe et les États-Unis, ont été tirées vers le bas par la crise économique, le chômage, tous les problèmes que nous connaissons. Et au même moment, les Chinois, qui sont d'excellents joueurs, comme tout le monde le sait, ont parfaitement abattu les cartes qu'ils avaient. Ils n'en avaient pas forcément tant que ça, mais ils les ont extrêmement bien joués, notamment, on pourra en reparler, sur le plan monétaire, ce qui leur a permis en fait de gagner une avance considérable et de faire en sorte que tout à coup, le reste du monde les considère d'une manière tout à fait différente et reconnaissent qu'en plus, dans la réalité des chiffres, en tout cas des chiffres globaux, ils sont effectivement arrivés au rang de deuxième puissance économique mondiale. Alors là-dessus, il faut sans doute faire une nuance importante. Deuxième puissance économique mondiale, certes, en termes de produit intérieur brut. Mais si on ramène cela au nombre d'habitants, la Chine ne se situe encore aujourd'hui qu'au 99e rang mondial. Et c'est là où on tombe effectivement sur la problématique de toutes les faiblesses de la Chine aujourd'hui, parce qu'elle en a, évidemment. C'est avant tout, effectivement, des problèmes sociaux considérables, puisque, en fait, l'enrichissement d'une partie de la société s'est fait extrêmement rapidement. On a vu en fait l'apparition d'une classe moyenne qui n'existait pas, puisque on partait d'une société égalitaire et extrêmement frugale. Donc une classe moyenne et aujourd'hui une bourgeoisie qui s'est créée. Alors ça représente quand même aujourd'hui la bagatelle d'environ 400 millions de personnes, donc un petit peu plus que toute la population de l'Union européenne. Donc c'est évidemment considérable. Un deuxième tiers qui est en train de sortir de la pauvreté, mais qui est effectivement la partie de la population qui aujourd'hui fait pression pour obtenir une amélioration de ses conditions de vie et de ses salaires, mais qui globalement est plutôt optimiste sur l'avenir parce qu'elle voit que devant elle, elle a cette fameuse classe moyenne qui n'existait pas il y a 15 ans. Donc elle espère que si ce n'est pas pour elle-même, ce sera pour ses enfants. Et puis en revanche, un troisième tiers, donc encore à peu près 400 millions de personnes, donc ce n'est quand même toujours pas négligeable, qui eux ont plutôt souffert et pâti des réformes pour des raisons diverses, soit parce qu'ils ont été déclassés, des ouvriers déclassés de l'ancien système d'État, et qu'ils ont eu en fait de grands problèmes pour retrouver un emploi. Des retraités qui ont bien reçu une retraite, mais qui correspondaient au montant de l'époque. Or, tout le système financier a été chamboulé, et même si les retraites ont été réévaluées, ils ont quand même des problèmes. Et puis les paysans, qui soit parce qu'ils se trouvent dans des zones trop reculées, soit parce que leurs terres ont été captées dans le cadre en fait du développement économique, soit pour des projets d'infrastructures, soit pour des créations d'usines, soit pour des projets purement privés, immobiliers, et donc expulsés, mais de manière souvent musclée, voilà. et pas forcément avec des indemnités adéquates. Vous avez finalement aujourd'hui une société extrêmement inégalitaire. Et c'est évidemment source de grandes tensions.
Oui, sachant qu'à ces disparités sociales viennent se greffer aussi des disparités régionales. Car eu égard à l'immensité de la Chine, il y a quand même tout un jeu de tensions entre des zones développées, même si maintenant le développement n'est plus uniquement sur les parties côtières et a commencé à toucher l'intérieur du pays, mais même au-delà de la question du Tibet, la question du Xinjiang reste des problématiques très importantes pour le pouvoir chinois.
Oui, alors en fait, pour bien comprendre l'importance des territoires dont on parle, si on fait un peu glisser la carte de la Chine sur celle que nous connaissons mieux de l'Europe, c'est en fait un territoire qui démarre au Danemark, qui descend jusqu'au Maroc et qui ensuite va jusqu'au-delà de l'Oural, avec la différence que les terres ne sont pas aussi cultivables que les nôtres. Et qu'en fait, il y a de très grands espaces désertiques ou montagneux non cultivables. Donc en fait, ils ont une surface arable assez rare. En plus, aujourd'hui, dans tout le nord de la Chine, ils ont un problème de sécheresse extrêmement compliqué, alors qu'à l'inverse, avec les changements climatiques, ils ont trop d'eau dans le sud. Bon, donc voilà pour le tableau général, mais qui explique en fait beaucoup de choses dans la problématique. Ce qui fait que, dans un premier temps, c'est les zones côtières qui étaient plus facilement en contact avec le monde extérieur qui ont été développées. Et puis très rapidement, enfin dès la fin des années 90, les autorités se sont aperçues de cet immense décalage entre cette zone côtière qui était de plus en plus développée et le reste du pays qui restait à l'époque encore en état de sous-développement, et d'où des programmes de modernisation forcée qui n'ont pas marché tout de suite, mais qui ont quand même porté leurs fruits et qui font qu'aujourd'hui, en fait, toutes les capitales provinciales, donc plus de 32 grandes villes, sont devenues de toute manière des centres d'activité. Et non seulement les capitales provinciales, mais parce que ce développement se fait en tache d'huile, aujourd'hui ce que l'on appelle les villes de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Alors, pour vous situer, les villes de première catégorie, on en a quatre. Pékin, Shanghai, Canton et Chongqing. Elles font toutes plus de 20 millions d'habitants. Chongqing fait plus de 30 millions d'habitants. Les villes que l'on appelle de deuxième catégorie sont situées entre 5 et 10 millions d'habitants. Et les villes de troisième catégorie font toutes plus de 1 million d'habitants et il y en a plus de 100. Donc on commence à mieux réaliser l'importance des choses. Et donc il y a un mouvement d'exode rural de toutes les zones proches de ces villes et donc un gonflement de ces mégapoles qui posent de véritables problèmes de développement. Comment gérer ces villes qui ont germé comme des champignons extrêmement rapidement, toutes les problématiques liées à l'environnement, à la pollution, etc. Donc à la fois, on voit le progrès et le développement se diffuser à l'intérieur du pays. Donc ce n'est plus, comme on avait il y a 10 ans, la zone côtière et le reste. C'est en train de s'étendre. Et ça s'étend d'autant plus que les Chinois ont énormément développé au cours de la décennie 2000 toutes les infrastructures de transport. Donc ça a d'abord été les autoroutes. Ils disposent aujourd'hui d'un réseau autoroutier absolument magnifique. Et c'est actuellement les TGV. Et c'est en train de modifier absolument totalement ce paysage gigantesque. On se rend par exemple aujourd'hui de la ville de Pékin à Tianjin, qui est le grand port qui est situé à 150 km de là, en 28 minutes. On va de Pékin à Shanghai, ou en tout cas on ira de Pékin à Shanghai à partir du mois de juin en 4 heures. De Pékin à Wuhan, qui est la ville du centre de la Chine, qui est jumelée avec Bordeaux, en 3 heures. Alors que jusque-là, il fallait envisager une nuit entière de train ou 12 heures de transport routier. Et tout cela se fait au rythme chinois, c'est-à-dire qu'aucun TGV n'existait en 2008. Aujourd'hui, ils ont déjà un réseau qui est plus grand que l'ensemble du réseau européen. Et en 2020, ils auront évidemment un réseau absolument gigantesque. Alors on a du mal à comprendre la rapidité de ce changement. Chez nous, les choses se font quand même avec une lente maturation. Alors ça présente des avantages, c'est-à-dire que si on a un projet d'autoroute qui passe au bout de son jardin, on a la possibilité de négocier des indemnités, mais ça peut aussi prendre 15 ans sur le projet. Là, lorsqu'un programme est décidé, il est réalisé avec la main-d'œuvre qui va avec en l'espace de quelques mois.
Il y a un double point que je voudrais qu'on aborde sur la question de la puissance de la Chine. Bon, on va dire que le versant économique est quand même maintenant plutôt bien connu. Mais il y a deux aspects qui me semblent intéressants et que vous soulignez dans votre livre, qui est à la fois donc, la question de la diplomatie, qui reste souvent à nos yeux assez mystérieuse et faite de coups de balancier. Et aussi une chose très intéressante qui est la prise de conscience au courant des années 2000 par le pouvoir chinois de ce que donc, vous appelez le soft power, c'est-à-dire la nécessité de doubler le rayonnement économique d'un rayonnement culturel. C'est-à-dire faire en sorte que la Chine ne soit pas perçue simplement comme une puissance économique, mais aussi comme une puissance et un lieu d'attraction culturelle, prenant modèle pour cela sur les États-Unis, qui ont imposé leur force largement aussi bien par leur culture, plus que par les armes.
Enfin, les
oui, ben oui. Sur le oui. Sur 45, ça peut. Oui, mais oui. C'était plus efficient oui. par le culturel oui. Que par et surtout sur les derniers exemples que par les conflits armés.
En fait, encore une fois, on retourne dans cette remise en dimension historique. Les Chinois, dans leur volonté de recréer l'Empire, ont des références anciennes. Et la référence qu'ils aiment le plus évoquer, c'est la dynastie des Tang. Alors la dynastie des Tang, ça se passe à l'époque de Charlemagne chez nous. C'était l'époque qui a été véritablement l'âge d'or de la civilisation chinoise. C'était le moment où, en fait, la capitale chinoise, qui à l'époque se trouvait dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Xi'an, qui à l'époque s'appelait Chang'an, était une ville incroyablement cosmopolite pour l'époque, qui accueillait donc des influences venant du monde plus proche de cette période-là, donc d'Asie centrale, d'Inde, du Pakistan, de l'Iran actuel, et avait en fait été tellement développé, non seulement sur le plan politique, mais également artistique, culturel, médical, qu'elle a servi de modèle à la civilisation japonaise. Et en fait, toute la civilisation japonaise est venue de l'influence de cette dynastie des Tang. Donc il y a aujourd'hui dans l'ambition chinoise cette ambition effectivement de retrouver sa place dans le monde d'aujourd'hui, mais dans un monde qui est encore plus vaste, avec donc cette volonté d'avoir aussi cette influence culturelle, spirituelle, etc., mais qu'elle a grand mal à trouver, puisqu'il y a eu pendant presque un siècle une coupure radicale de la Chine avec ses traditions. Donc on a à la fois une Chine qui essaie de retrouver un sens à sa spiritualité, que l'on observe par exemple avec une renaissance du bouddhisme, un retour du confucianisme, beaucoup d'intérêt aujourd'hui de la nouvelle génération pour tout ce qui peut être spirituel, intellectuel. Et en même temps, la prise de conscience que si véritablement elle veut à son tour devenir une grande puissance capable de rivaliser avec les États-Unis, il va falloir qu'elle trouve l'équivalent du McDo et des Coca-Cola, de la musique, du rock and roll et du pop art. Et donc, elle se demande ce qu'elle va pouvoir proposer. Alors, c'est pour ça que vous avez vu naître, il y en a d'ailleurs un à Poitiers, ce qu'ils ont appelé des instituts Confucius. C'est une initiative récente, puisque c'est en 2005 que les premiers instituts Confucius ont été lancés. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 500 dans le monde, donc les choses vont vite à la chinoise. Mais au-delà des structures qui ont pu être mises en place, les Chinois continuent à s'interroger pour savoir qu'est-ce qu'ils vont montrer, finalement. Ils comprennent bien que le régime politique qu'ils ont n'a pas forcément une aura extraordinaire côté occidental. Mais il y a eu souvent une ambiguïté où on a pensé donc qu'avec le développement économique, la Chine allait progressivement évoluer vers notre modèle de démocratie occidentale. Or, il semble de plus en plus que pour des raisons plus complexes, qui sont liées notamment à l'effondrement du mythe de l'Occident. Il y avait donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, un mythe de l'Occident extrêmement fort dans les années 80 qui s'est progressivement effondré du fait que des étudiants chinois sont allés massivement en Europe et aux États-Unis, n'ont pas eu forcément le sentiment d'être toujours très bien accueillis, n'ont pas forcément trouvé d'emploi, ont découvert aussi un Occident qui, lui, est commencé à rentrer dans un cycle de crise économique. Et puis aujourd'hui, la crise économique qui, quelque part, accélère encore le processus. Donc finalement, le fameux modèle occidental marche-t-il si bien que cela ? Les Chinois sont les premiers à poser la question. Donc ils sont aujourd'hui dans la volonté d'inventer leur propre modèle. Alors quel sera-t-il ? Il est aujourd'hui en construction. On peut souhaiter qu'il aille malgré tout vers la démocratie. C'est ce qui est annoncé, hein, une démocratie socialiste. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, ça va quand même à tout petit pas. On a pu le voir malheureusement encore à l'automne avec l'affaire du prix Nobel de la paix. Donc il y a encore de grands progrès à faire pour la Chine sur le plan des droits de l'homme. Une partie des autorités en est consciente, et notamment l'année dernière, le premier ministre actuel, donc celui qui est aux commandes aujourd'hui, a commencé à laisser entendre, enfin d'ailleurs de manière très claire, dans des discours qui ont été eux-mêmes censurés, qu'il était temps pour la Chine d'entamer le processus de réforme politique. Et là, on retombe sur l'influence de Deng Xiaoping, qui avait dit avant sa mort qu'il fallait un temps de maturation pour que la population chinoise soit suffisamment développée pour pouvoir être à même de gérer la démocratie. Et il avait mis cet horizon au 100e anniversaire du régime communiste. Donc il a envisagé que vers 2049, pour être précis, au mois d'octobre, les Chinois rentreraient dans ou pourraient bénéficier pleinement d'une démocratie. Mais de quel type de démocratie s'agissait-il ? Puisqu'en fait, il y a toutes sortes de démocraties. Une démocratie suisse, une démocratie française, une démocratie américaine. plutôt une démocratie chinoise. Mais alors, quelle sera-t-elle? Avec quels ingrédients? Ça va être justement toute la problématique des 30 prochaines années, puisqu'ils considèrent qu'ils ont mis 30 ans pour faire les réformes économiques et qu'il leur faut, en principe, à peu près à nouveau 30 ans, donc les 30 prochaines années, pour mettre en place cette réforme politique. Donc, a priori, ce n'est pas pour l'année prochaine.
Et dans votre conclusion, vous soulignez une... ce que vous avez déjà évoqué, mais une sorte de double méconnaissance en fait entre l'Europe ou l'Occident et la Chine, et vous appelez de certaine façon au réveil de l'Europe que vous trouvez particulièrement léthargique, et entre autres à une idée de partage des connaissances. Alors avec deux exemples intéressants, vous soulignez le fait que l'Europe, enfin, la communauté européenne ait fait très peu usage de la connaissance qu'auraient pu lui apporter les nouveaux entrants ex-pays communistes dans la compréhension du système communiste chinois. Et l'autre exemple que vous donnez, ou autre piste que vous donnez, c'est par rapport à l'Afrique, sur le fait qu'on pourrait très bien imaginer un travail conjoint et de l'Europe et de la Chine pour le développement de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces deux points ?
Oui, je pense qu'en fait, ça va être la grande problématique des prochaines années, puisque l'on constate de plus en plus que face à cette émergence chinoise qui, encore une fois, s'est effectuée d'une manière extrêmement rapide, on a aujourd'hui, côté occidental, un petit peu moins aux États-Unis, qui sont plus pragmatiques et qui réagissent plus rapidement, mais certainement côté européen, un premier sentiment, une première réaction qui est une réaction de peur. On le voit d'ailleurs la presse l'entretient, on titre sur la menace chinoise, on n'est pas très loin du péril jaune. Bon. Tout cela, évidemment, vient de l'immense méconnaissance que nous avons, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour donner, sans jugement, vous verrez, si vous avez l'occasion de le parcourir, que je me suis vraiment efforcée de me mettre... en tant qu'observateur, témoin de ces transformations, mais je me suis refusée à façonner votre sentiment. Je considère que le lecteur est suffisamment mature pour se faire sa propre idée. En revanche, je vous ai donné des éléments de réflexion, je vous ai donné des faits. Et à partir de là, vous en penserez ce que vous voulez. Mais ce qui m'apparaît donc extrêmement critique et extrêmement important dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est donc qu'il y a ce sentiment de peur qui est flottant chez nous, qui, de mon point de vue, vient beaucoup du fait que l'on a mis très longtemps pour prendre conscience de ce réveil chinois qui avait pourtant été annoncé par un Français, voilà, bien longtemps, très visionnaire, par Alain Perfit. Mais on a mis très longtemps pour l'admettre, puisqu'il se réalisait dans une Chine encore communiste, et qu'on était donc quelque part bloqué idéologiquement par cette idée qu'il puisse réussir sans quitter le système communiste. C'est ce qui pose quand même un problème idéologique fondamental pour des gens qui ont vécu dans un XXe siècle, qui est resté quand même coupé en deux par ces questions. Or, il faut admettre la réalité des faits. Ils sont aujourd'hui, ils l'ont opéré, leur réveil. Donc le système international que nous connaissions jusqu'à la fin du XXe siècle et quelque part, je dirais, jusqu'à 2007, n'existe plus aujourd'hui. Mais les choses se sont passées tellement vite que nous n'en sommes pas encore totalement conscients et qu'il faut néanmoins admettre cette réalité. Donc c'est pour cela que l'on a ce sentiment de peur, parce qu'on ne l'a pas encore totalement digéré. Mais ce qu'il faut que les Occidentaux comprennent, c'est que les Chinois aussi ont peur. Ils ont peur de la même manière... de voir que les choses se passent donc beaucoup plus vite que prévu. Ils ont peur des nouvelles responsabilités qui leur sont demandées maintenant qu'ils arrivent au rang de deuxième puissance, alors que par ailleurs, ils sont conscients qu'ils ont encore toute cette problématique du sous-développement, puisqu'ils sont à la fois grande puissance et pays émergent en même temps. Donc ils se demandent s'ils seront à même d'assumer ces responsabilités. Quelque part, ils ne sont pas encore rentrés dans les habits de la deuxième grande puissance. Et ils aimeraient y aller plus doucement, s'ils le pouvaient, mais la réalité ne leur permettra pas. D'où ce qui, chez nous, apparaît sous forme de peur, chez eux, apparaît sous forme d'arrogance, ou en tout cas ce que nous appelons l'arrogance, de plus en plus fréquemment, qui est aussi un rendu par rapport à une arrogance que les Occidentaux ont exercée à leur égard, particulièrement au XIXe siècle, puisqu'encore une fois, ils vivent avec cela dans l'esprit. Et donc, il me semble que nous sommes dans une phase extrêmement critique pour la suite des choses, puisque tout cela se déroule chez nous dans un contexte de crise économique. Or, on sait, de par les expériences passées que l'on a vécues dans les années 30, que les contextes de crise économique ne sont pas forcément favorables aux bonnes décisions, et que si cela s'ajoute à un sentiment de peur, c'est encore moins bon. C'est pour cela qu'il me paraît absolument fondamental de rester lucide, de ne pas partir dans des préjugés nés sur la méconnaissance, nés sur la frayeur, mais en revanche, de ne pas non plus être naïf, de ne pas nous laisser chloroformer. Donc il faut que l'on trouve aujourd'hui un juste milieu. Et il me semble que ce bouleversement international auquel on assiste, de par son ampleur, est aussi important que celui qu'on a pu trouver au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a pas eu de Deuxième Guerre mondiale, heureusement. Mais en revanche, le bouleversement est là. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez tous qu'il y a eu la réunion de Yalta, qui a permis à tous les représentants des puissances de l'époque de s'asseoir autour d'une même table. Alors le résultat n'a pas forcément été bon, puisqu'ils ont choisi de couper le monde en deux. Mais moi, la question que je soulève, c'est qu'il faut néanmoins qu'ils s'assoient tous aujourd'hui autour de la même table pour envisager la manière de poursuivre d'une manière pacifique la mondialisation. Cette réunion n'a pas encore eu lieu. Alors on sait qu'il y a aujourd'hui des projets autour du rôle que pourrait jouer le G20 dans le domaine monétaire. Mais il me semble que c'est certainement très bien de parler des questions monétaires, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'on envisage la globalité de ces transformations. Et si on veut réellement trouver un sens à vouloir cohabiter dans le même monde, il me semble aussi qu'il faudrait qu'on ait un dessein commun, et que ce serait la seule chose qui permettrait d'admettre que les choses ont changé, et que si on a un tout petit peu de vision, il paraît évident qu'aujourd'hui il y a un dessein commun qui est presque une obligation, puisque si on n'y répond pas, ce sera un éclatement commun, qui est le développement de l'Afrique, mais l'Afrique au sens large, telle que les Chinois l'envisagent, c'est-à-dire celle qui englobe le monde arabe. Or, les événements actuels en Égypte, ou ce que l'on a pu voir en Tunisie, sont bien les premiers signes de ce choc qui est en train de qui a été longuement annoncé, mais qui est quand même en train de démarrer sur cette année 2011. Je pense que ça ne s'arrêtera pas à l'Égypte, et qui donc il est grand temps, et qu'il y aurait une possibilité pour la France de prendre l'initiative. Et que ce serait certainement la meilleure manière de nous rassurer, puisque nous sommes quand même assez bons, généralement, la perception des mouvements politiques, dans la proposition, ou en tout cas, on a été bons dans le passé, donc il n'y aurait pas de raison à ce que l'on ne poursuive pas sur cette lancée. Et la deuxième comparaison que je peux faire avec l'histoire est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après Yalta, nous avons eu le plan Marshall pour relever rapidement l'Europe. Et donc l'idée que je lance, c'est faisons un plan Marshall sur l'Afrique en unissant les forces des Chinois, des Européens et des Américains. Alors aujourd'hui, c'est évidemment un mouvement long pour convaincre les esprits. Sans doute en Occident, c'est là où nous serions, en tout cas en Europe, c'est là où nous serions les plus rapides et les plus prêts à vouloir le faire, parce que nous avons cette proximité culturelle de longue date avec l'Afrique qui nous permet de mieux comprendre cela. Aujourd'hui, vous savez très bien que les Chinois sont de plus en plus présents sur l'Afrique, et ils ont le sentiment qu'ils pourront poursuivre leur avancée tout seuls et qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Or, l'évolution des choses sur le terrain africain nous montre bien que ce n'est pas forcément vrai. Parce que la manière dont le développement chinois se fait en Afrique, s'il est rapide, est également problématique. Parce qu'il ne se limite pas à l'exploitation de gisements ou de mines, comme on l'a souvent écrit. Il présente aussi des aspects positifs, puisque les Chinois, notamment, sont en train de développer de manière très rapide des infrastructures africaines, en créant des autoroutes, des hôpitaux, des écoles. Mais tout cela est construit généralement par des charters d'ouvriers venus de Chine, donc ne crée finalement aucun emploi localement, ou très peu. Et ces charters d'ouvriers chinois sont généralement accompagnés par des entrepreneurs privés, qui d'ailleurs ne sont généralement pas contrôlés par les autorités chinoises, qui viennent tenter leur chance. Et comme ils sont très travailleurs et proposent des produits chinois bon marché, ils tuent très rapidement l'économie locale. Donc on commence à voir dans de nombreux pays africains des réactions. Après avoir eu une première phase qui était une phase d'accueil très positive, où les Africains disaient « Ah, mais voilà, un nouvel acteur, et grâce aux Chinois, on va recommencer à s'intéresser à nous », finalement, au bout de 5-6 ans, on s'aperçoit que ça ne se passe peut-être pas aussi facilement. Donc voilà, je pense qu'il pourrait être utile d'utiliser les atouts de chacun. Sans doute la rapidité chinoise, leur capacité à simplifier les produits, à les rendre moins chers, la connivence intellectuelle et culturelle que nous avons avec l'Afrique, l'argent que l'on pourrait récolter en unissant nos forces pour se donner un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans pour véritablement décider, voilà, on électrifie l'Afrique, on met en place des infrastructures, on crée des écoles, on travaille sur la santé, qui serait évidemment le moyen, cyniquement parlant, de créer un marché africain, mais qui serait aussi une vision à plus long terme, qui permettrait de stabiliser les populations sur place, puisqu'il y aurait enfin du développement chez eux, donc qui serait aussi une réponse aux questions d'immigration, et également aux questions de fanatisme religieux. Voilà la proposition que je lance sur le marché de la réflexion.
Mais écoutez, je crois qu'on va conclure sur cette hypothèse et cet espoir. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser ? Oui, madame.
Je veux savoir si les Chinois ont conscience du danger pour l'environnement, de leur développement, et s'ils prennent des mesures pour lutter contre la dégradation de l'environnement.
Oui, alors il y a eu... La Chine est à la fois aujourd'hui le pays le plus pollué du monde, mais celui qui risque de faire les percées dans le domaine de l'environnement les plus rapides aussi. Parce qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est passée à la fin de l'année 2005, à l'issue d'un épisode dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelait la crise du fleuve Amour, au moment où il y a eu une usine chimique qui a explosé, qui a envoyé du benzène dans une rivière qui servait de frontière entre la Chine et la Russie. Et en fait, ce sont les Russes qui, en faisant des tests, se sont aperçus que tout à coup, les taux de pollution n'étaient pas du tout habituels et ont lancé une alerte internationale. À l'issue de quoi, le Premier ministre chinois a lancé un examen national et a eu des résultats qui étaient pour le moins terrifiants. Donc à partir de là, il y a eu une prise de conscience au plus haut niveau de l'État chinois. Mais maintenant, ils sont dans le processus de bataille pour arriver à convaincre les autorités provinciales, puisqu'il y a traditionnellement toujours un bras de fer, un rapport de force entre le pouvoir central à Pékin et les provinces qui, pour beaucoup d'entre elles, considèrent encore que le développement, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de cheminées d'usines fumantes. Donc il y a un véritable processus qui va prendre du temps, mais qui est lancé. Et ce qui peut être porteur d'espoir, c'est que la nouvelle génération chinoise, celle qui est la fameuse génération des enfants uniques, donc qui est née depuis le début des années 80, justement, qui a grandi dans cette Chine des réformes, cette génération-là est particulièrement consciente des problèmes d'environnement et a envie de vivre dans une Chine de plus en plus propre et de plus en plus respectueuse de l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, je serais plutôt optimiste. Mais évidemment, encore une fois, vu l'ampleur des dommages qui ont été faits et du temps nécessaire pour le changement, je pense qu'il faut encore compter sur une génération.
Oui, monsieur.
Un peu dans la continuité, c'est un ordre énergétique. A-t-on une bonne connaissance de leur indépendance énergétique ?
Alors, ils sont dépendants sur la plupart des énergies utilisées aujourd'hui, puisqu'ils sont producteurs de pétrole, mais leur consommation est bien supérieure. Donc, ils ont besoin de trouver des sources d'approvisionnement. Ils sont, par contre, autonomes dans le domaine du charbon, mais c'est extrêmement polluant. Donc, ils sont en train d'évoluer. Alors, ils sont en train, en fait, de faire des passages, des sauts technologiques. C'est-à-dire que prenant conscience de cette dépendance, ils sont en train d'investir massivement sur les énergies propres et sur les nouvelles technologies, donc sur le solaire, sur l'énergie éolienne. Il y a une discussion importante en cours sur le nucléaire. Ils ont lancé un programme nucléaire très important, mais ils restent assez prudents parce qu'ils ont été très marqués par l'affaire de Tchernobyl, sur l'énergie hydraulique, etc. Mais surtout, ils sont en train également de prendre une avance considérable sur une autre, pas véritablement source d'énergie, mais néanmoins source qui va s'avérer certainement stratégique pour les prochaines années, qui est encore mal connue du grand public, que l'on appelle les terres rares. Vous avez vu qu'on en a de plus en plus parlé depuis quelques mois. Ces terres rares, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont en fait des minéraux qui en réalité ne sont pas rares du tout, puisqu'on les trouve à peu près partout sur la surface, sur la croûte terrestre, mais qui sont extrêmement difficiles à extraire et extrêmement difficiles à être transformés de manière utile. Et ce processus est extrêmement polluant et qui plus est radioactif. Donc progressivement, il se trouve que les Chinois détiennent les plus grandes réserves mondiales de terres rares, en tout cas de réserves connues. Ils en ont à peu près 60%. Et là encore, nous retournons à notre fameux Deng Xiaoping, qui s'est avéré véritablement être visionnaire à beaucoup d'égards, et qui, ne comprenant pas non plus très bien ce que c'était que les terres rares, s'est fait expliquer leur intérêt en 1992, à une époque où on commençait à les utiliser dans les téléviseurs, par exemple pour créer la luminescence. Aujourd'hui, les terres rares sont utilisées à peu près dans tout ce qui nous est utile, dans toutes les nouvelles technologies, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, mais également dans les armements sophistiqués. Et Deng Xiaoping a compris que la Chine avait un atout formidable avec ses terres rares et a eu cette phrase célèbre en disant « Le Moyen-Orient a le pétrole, mais la Chine a les terres rares ». Bon, il ne croyait pas si bien dire, puisqu'ils sont non seulement détenteurs de 60% des réserves, mais ils sont aujourd'hui, ils détiennent 95% de la production mondiale. Donc en fait, ils contrôlent totalement le marché. Les Occidentaux ont été aussi d'accord pour les laisser faire, puisqu'encore une fois, c'était très polluant. Mais depuis l'année dernière, ils ont décidé de reprendre le contrôle de ce marché qu'ils avaient laissé en fait se développer d'une manière tout à fait sauvage. Et ce faisant, ils ont fixé des quotas. Donc on a un petit peu l'équivalent du premier choc pétrolier de 1973, maintenant sur la question des terres rares, encore une fois de plus en plus stratégique pour les technologies futures.
C'est sur le plan économique. Vous avez dit que, en fait, ils se lancent dans la mondialisation. Il y a un libéralisme, semble-t-il, très fort au niveau des entreprises individuelles. Stratégie à long terme très, très fermée, avec des objectifs précis. Alors, comment font-ils pour marier cela? Est-ce qu'il y a un plan? Et ce plan, comment s'applique-t-il? Et quels sont les contrôles?
Alors, je pense que on a souvent pensé qu'effectivement, les Chinois contrôlaient absolument tout. Or, ce n'est pas la réalité. Ils ont une vision à long terme sur un projet général, comme par exemple, c'était la vision à long terme sur recréer la grandeur de la Chine, recréer l'Empire chinois. Mais ils ne sont jamais rentrés dans le détail sur la méthode à utiliser pour atteindre cet objectif. Pour la raison essentielle que les Chinois sont avant tout culturellement des gens issus d'une civilisation du pragmatisme. Et là encore, décidément, Deng est très présent ce soir. Deng Xiaoping a eu une phrase célèbre pour expliquer cette stratégie en disant nous traverserons la rivière à tâtons en marchant sur les pierres les plus stables. Donc ce qui résume bien la situation, c'est-à-dire ils vont utiliser... ils s'adaptent aux circonstances, ce qui leur donne un atout formidable dans le monde extrêmement mouvant dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes plutôt à respecter des règles, des lignes de conduite qu'on essaie de tracer. Eux réagissent en fonction des événements, en fonction des opportunités, ce qui leur permet parfois de faire des virages qui nous paraissent incompréhensibles et qui sont en fait... Je compare cette lancée souvent à celle d'un paquebot qui essaierait de tracer vers un but, mais qui parfois va donner un grand coup de barre à droite, un grand coup de barre à gauche. Mais néanmoins, le cap est clair. Donc c'est un petit peu leur manière de faire les choses, ce qui veut dire dans la réalité qu'il n'y a pas véritablement un contrôle dans les détails de toutes les activités, loin de là, parce qu'encore une fois, la Chine est grande, elle est industrieuse, et qu'aujourd'hui, le système privé chinois occupe plus de 60% de la population active et plus de 75% des exportations. Donc en fait, de facto, le pouvoir n'a plus les moyens de tout contrôler. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a une dérive trop grande par rapport à l'objectif principal, il y a des remises à l'ordre pour que l'on revienne dans l'objectif principal. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, par exemple, c'est que la stratégie générale, c'est de créer des géants économiques dans des domaines importants. Et donc ces géants ont été plus ou moins déterminés sur des secteurs qui, malheureusement, apparaissent comme tout à fait concurrents de ceux dans lesquels on se situe en Europe et particulièrement en France. Ils sont moins concurrents, par exemple, des industries allemandes qui sont plus situées dans le domaine, justement, de la machine-outil, des industries de base, alors que nous étions sur ce créneau de la haute technologie qui est malheureusement aussi le leur aujourd'hui, qui ne l'était pas il y a 10 ans, mais qui le devient. Et c'est pour ça aussi que je lance un appel pour que l'on prenne conscience de cette réalité et qu'à notre tour, au lieu de rester les bras croisés en se disant « Ah oui, tiens, les Chinois se développent bien vite », on puisse nous aussi réagir au niveau européen. Parce que si on reste dans une perspective purement française, nous serons très vite beaucoup trop petits. Enfin, nous sommes déjà petits, mais on n'en est pas encore conscient.
Monsieur.
Quelle est l'importance de l'armée chinoise ? Est-ce que le service militaire est-il obligatoire en Chine ?
Alors, ils ont un service limité, c'est-à-dire qu'ils ont une armée qui est officiellement de 2,3 millions d'hommes, et donc ils ont besoin d'une conscription, d'un nombre relativement limité de soldats chaque année. Donc cela veut dire que ce n'est pas l'ensemble des jeunes hommes qui vont faire leur service, c'est environ 10% d'une classe d'âge. Et il y a possibilité pour des gens qui ont été nommés, qui n'ont pas forcément envie parce qu'il y a une perspective d'études, de création d'entreprise, de payer par exemple un paysan pauvre qui ira faire le service militaire à la place, puisque c'est un service qui est encore long d'un peu plus de 2 ans. L'armée chinoise, elle est en plein processus de modernisation. Et là encore, je crois que pendant très longtemps, les Occidentaux ont sous-estimé l'importance de cette modernisation, considérant que les Chinois partaient de très loin. Alors c'est vrai qu'ils partaient de très loin, mais à partir de 1993, ils ont mis des budgets militaires considérables, estimant qu'en fait, s'ils voulaient être une grande puissance, il fallait aussi, et rebâtir leur empire, il fallait aussi qu'ils puissent se faire respecter. Alors aujourd'hui, la théorie officielle est que cette armée se développe dans une perspective purement défensive, qu'il n'y a pas de volonté de conquête. Mais il est évident qu'il y aura en tout cas une volonté de protection de ce qui est acquis. Or, aujourd'hui, on voit bien quand même le développement de l'influence chinoise sur le plan économique, sur les pays voisins, déjà sur son territoire initial, et notamment ça a été toute la problématique de Taïwan, enfin qui existe encore aujourd'hui. Donc cette île qui faisait autrefois partie de l'Empire chinois, qui ensuite est devenue colonie japonaise, puis maintenant a eu pendant 15 ans une volonté indépendantiste, qui aujourd'hui semble se rapprocher à nouveau de la Chine. Mais il y aura évidemment aussi des possibilités de rapports de force importants sur des zones qui intéressent les Chinois. Je pense particulièrement à des archipels qui sont situés dans des zones très stratégiques qu'on appelle les Spratly, qui semblent être riches en pétrole et qui en tout cas sont situés sur la route qui permet de relier le Pacifique à l'océan Indien. Donc qui sont très importantes, qui sont au stade actuel revendiquées par 7 États riverains, dont la Chine. Et les Chinois ont eu cette formule en disant « Écoutez, on discutera plus tard de la souveraineté, mais pour l'instant, on peut déjà exploiter les richesses locales. » Comme c'est les seuls. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas, être naïf par rapport à ce développement militaire chinois. Mais il n'est pas, en tout cas aujourd'hui, et de mon point de vue, pas à moyen terme, dans une perspective agressive par rapport au monde occidental, mais il est certainement, très certainement, dans une perspective de défense en cas d'agression venant du monde occidental, puisque les Chinois ont très peur de se faire agresser par le monde occidental. Et ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe. Là encore, ils brûlent les étapes, et donc ce qui est en train de se passer, notamment dans le domaine spatial. Où là, les Chinois vont très certainement ont relancé d'une certaine manière la course aux armements dans le domaine spatial avec les Américains.
Les rapports avec les minorités nationales.
Alors, il faut savoir que la Chine est peuplée de très nombreuses minorités nationales. Il y en a plus de 57, je crois, pas loin de 60. Ces minorités, pour la plupart, se situent sur les pourtours de l'Empire, donc dans les provinces du Sud, qu'on appelle le Yunnan, le Tibet, évidemment, que vous connaissez tous, le Xinjiang, qui est en fait la grande province qui se trouve tout à fait à l'ouest de la Chine, qui jouxte l'Asie centrale, et puis au nord, la Mongolie. On en trouve relativement peu dans le reste du pays. Et ces minorités nationales, toutes réunies, font un petit peu moins de 5% de la population. En fait, la Chine, contrairement à l'Union soviétique à l'époque, a quand même cette unité raciale, donc d'une très forte dominance de ce qu'on appelle les Han, c'est-à-dire la race d'origine chinoise. Alors, on a assisté pendant, depuis le début du régime communiste, mais particulièrement depuis justement ces 30 dernières années, à une sinisation progressive, une hanisation, d'ailleurs ce serait plus correct de dire ainsi, des zones limitrophes, des fameuses provinces que je vous ai citées, qui est une manière pour le pouvoir central, en fait, de stabiliser, de son point de vue, l'adhésion de ces provinces qui ont été en fait raccrochées à l'Empire chinois pour certaines d'entre elles assez récemment, notamment le Xinjiang. Mais alors évidemment, cela pose des problèmes avec les populations d'origine qui généralement appartenaient à un système culturel très différent, notamment au Tibet, où on est beaucoup plus proche de la civilisation himalayenne, et même au Xinjiang, où on est beaucoup plus proche d'une culture turcophone, en réalité, dans cette région-là. Et donc, il y a eu des révoltes qui ont parsemé toutes ces années, et notamment les deux dernières, qui ont eu lieu donc au Tibet en 2008 et au Xinjiang en 2009, dont vous avez encore présent à l'esprit. Et alors, de ce point de vue-là, la réponse chinoise a évolué, puisque pendant toutes les années passées, on était plutôt dans un système de répression pure et dure, enfin plutôt dure et dure. Aujourd'hui, voyant que justement ce système ne marche pas forcément, il commence à prendre conscience que la meilleure réponse serait de faire profiter ces populations locales des fruits de la croissance et donc de les associer davantage qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent au développement. Mais c'est une prise de conscience qui est extrêmement récente, qui date de l'année dernière. Et donc on va voir comment dans la réalité ça peut se traduire. Mais il y a une volonté, en fait, là aussi c'est prévu dans le plan, d'amener ces populations locales au même niveau de développement économique que le reste de la Chine à l'horizon 2015, donc ce qui n'est pas si lointain.
La politique de la démographie de la Chine est un enfant unique, qu'en est-il maintenant ?
Alors, la politique d'enfant unique, ça a été encore une des grandes décisions de Deng Xiaoping au moment de son arrivée au pouvoir. Il est parti du principe que si la Chine voulait réellement mener à bien son développement, elle ne pouvait plus, comme c'était le cas jusqu'à cette époque-là, avoir des familles extrêmement nombreuses et qu'il fallait impérativement réduire le nombre d'enfants pour pouvoir leur permettre d'avoir une éducation de qualité. Avoir moins de problématiques à résoudre pour l'alimentation, etc. Donc ça a été le choix de cette politique tout à fait drastique de l'enfant unique qui a été adoptée à partir de 1978. Simplement, dans la théorie, c'était pas mal, peut-être, mais dans l'application, ça s'est fait d'une manière extrêmement difficile. Parce que les Chinois, tout comme nous, et peut-être encore plus que nous, ont une culture de véritablement adoration des enfants. Ils avaient cette tradition d'avoir des familles très nombreuses. Donc jusqu'en 78, la moyenne familiale était entre 4 et 5 enfants. Et ils ont en plus une absence de système de retraite. Et dans la tradition chinoise, c'est le fils aîné, ou parfois les fils, qui sont censés s'occuper des parents âgés, alors que la fille ou les filles partent dans la belle famille s'occuper des beaux-parents. Donc en fait, cette politique d'enfant unique a eu très rapidement des effets pervers, puisque les Chinois, quitte à n'avoir qu'un seul enfant, ont préféré avoir un fils. Donc on est arrivé à un déséquilibre démographique énorme, puisque au niveau national, on est aujourd'hui à près de 20% de petites filles en moins sur une génération, qui sont généralement absentes du fait d'avortements tardifs, mais qui peuvent être très tardifs, voire d'abandon, puisque la plupart des orphelinats sont pleins aujourd'hui de petites filles. Ou même dans les pires des cas, ce qui n'est heureusement pas la majorité, mais qui arrive quand même encore dans des zones reculées d'infanticide de petites filles. Et puis il y a des provinces donc plus rurales où on arrive à des déséquilibres dramatiques de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que vous avez à la naissance 140 garçons pour 100 filles. Donc ce qui sera évidemment lourd de conséquences. Et là, on commence à arriver au fait que cette génération arrive à l'âge adulte. Et on voit de plus en plus d'hommes qui sont, dans certaines régions, à la recherche de femmes à épouser. Alors, ils commencent à épouser des voisines, si je puis dire, des Vietnamiennes, des Coréennes, etc. Et puis, il y a eu un assouplissement, en réalité, de la réglementation. Puisque dès le milieu des années 80, pour contrer ces problèmes, dans les campagnes où le problème de l'enfant, enfin de la recherche du fils était plus forte que dans les villes, il y a eu un amendement tout à fait intéressant qui disait que si l'enfant est handicapé ou si c'est une fille, dans cet ordre dans le texte, ils avaient droit à un deuxième essai. Voilà. Alors, ce qui fait qu'en fait, dans la réalité, on a à peu près 2 enfants au minimum dans les campagnes et de nombreux cousins annoncés lorsque les censeurs viennent faire leur travail. Et la réglementation est appliquée d'une manière plus ou moins ferme selon, en fait, le bon vouloir du chef local. Il y a des régions où c'est effectivement 2 enfants maximum. Il y en a où il semblerait qu'il y en ait beaucoup plus. Et par contre, en ville, c'est véritablement un enfant unique. Et en ville, les filles sont aujourd'hui tout aussi bien considérées que les garçons, ce qui, d'une certaine manière, a aussi favorisé l'éducation des filles, puisque s'il n'y a plus qu'un enfant, tout le monde, évidemment, fait corps autour de cela. Donc on a aujourd'hui une nouvelle génération citadine avec des filles tout à fait bien éduquées, qui ont été à l'université et qui rentrent dans la vie active de manière comparable aux garçons. Ça a été aussi un changement social extrêmement important, puisque il faut se souvenir que jusque dans les années 30, les femmes restaient à la maison et elles avaient en plus les pieds bandés. Donc on revient quand même de très loin pour la situation des femmes en Chine. Et puis, dernière chose importante à noter sur ce plan, c'est que cette politique ne devrait quand même pas durer très longtemps, puisque la Chine est entrée dans un processus de vieillissement. Alors, elle n'y est pas encore, mais à l'horizon 2015-2020, il va y avoir davantage de gens de plus de 45 ans que de jeunes. Aujourd'hui, on est encore dans une population à majorité jeune. Et donc, ils vont devoir faire face au problème du vieillissement de la population, des retraites à assurer. Alors, tout le monde se demande si, effectivement, la loi va être ou pas supprimée. Mais à l'heure actuelle, il semblerait que le choix soit plutôt un laisser-faire de plus en plus non avoué, mais réel, plutôt qu'un lever complet de la loi, parce qu'ils ont peur d'avoir à faire face à un baby-boom. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet horizon s'est rétréci. puisque, comme je vous le disais, cette crise économique que nous sommes en train de vivre a servi en quelque sorte d'accélérateur d'histoire. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans la position où il pensait être en 2030. Donc, la projection première puissance à égalité avec les États-Unis, qui donc à l'époque était prévue plutôt pour 2050, est aujourd'hui estimée à la fois par les stratèges chinois, mais aussi par les stratèges américains, donc c'est ça qui est intéressant, à un horizon plutôt 2025-2030. Donc, ce qui est quand même pas très loin de nous, hein, et qui pourrait être encore accéléré si la crise se poursuit. Au-delà, je crois que leur vision, et c'est là aussi où c'est important d'essayer de désamorcer les angoisses excessives, leur vision, c'est idéal, en tout cas, on n'est pas sûr que ça se passe comme ça, c'est d'un monde vivant en paix, un monde de libre-échange, où chacun parvient à s'enrichir en paix, puisque leur véritable objectif, après avoir traversé un siècle et demi de troubles complets, c'est surtout de ne pas se remettre dans un processus de guerre qu'ils trouvent contre-productif. Mais maintenant, est-ce que c'est réellement ce qui se passera ? L'avenir nous le dira, parce que cela dépendra aussi de la réponse de l'Occident par rapport à cette émergence de la Chine. Et c'est pour ça que je pense que c'est réellement important que l'on prenne conscience de ce qui se passe, de l'objectif qu'ont les Chinois, et que l'on réfléchisse nous-mêmes à la réponse la plus adéquate que l'on puisse donner. Et là-dessus, tout à l'heure, on a parlé de l'Afrique, mais on n'a peut-être pas assez parlé donc, de ce qui, moi, me paraît absolument indispensable, qui est aujourd'hui une accélération du processus européen. On est dans un processus extrêmement lent qui a connu des déboires, mais qui était dans une logique où, finalement, quelque part, on pouvait prendre notre temps. Aujourd'hui, on ne peut plus, compte tenu de la rapidité à laquelle se passent les choses. Alors, est-ce que la logique était effectivement encore de jouer les choses à 27 ou peut-être de se recentrer sur les pays fondateurs de l'Europe, mais en tout cas accélérer le processus à ce niveau-là, ou tenir compte du fait que la Russie a l'air de vouloir également se rapprocher de cette Europe, ou alors considérer le fait qu'on pourrait accélérer au moins des processus de planification au moins industrielle, ou en tout cas avoir des stratégies communes sur la Chine. Ce qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Et pour l'ironie de l'histoire, les Chinois, qui sont des longs stratèges, sont les premiers à s'étonner de cette absence de réaction des Européens. Les Chinois ont beaucoup plus cru à l'Europe, même que nous-mêmes. Et ils attendaient cette Europe, parce que dans leur idée, il fallait que l'équilibre du monde futur soit tripolaire, puisque dans la logique chinoise, la stabilité, c'est le trépied. D'ailleurs, vous le voyez dans tous les objets d'art chinois, ils ont trois pieds, ils n'en ont pas deux. Et ils n'ont aucune envie de se retrouver seuls face aux États-Unis, puisqu'ils pensent que ça peut être justement source de conflits rapides. Donc ils attendent de l'Europe qu'elle se manifeste. Or, malheureusement, elle prend son temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a très souvent, quand je discute avec des Chinois, ils sont étonnés de ce qu'ils appellent le ventre mou européen. C'est-à-dire, ils avancent, ils investissent. Finalement, ils n'ont pas d'interlocuteurs, parce qu'on revient à des interlocuteurs nationaux, mais qui n'ont pas pouvoir de décision sur d'autres pays. Et donc, ils se demandent si ce n'est pas une stratégie extrêmement élaborée des Européens. Il faut mieux les absorber. Mais malheureusement, je ne peux pas les décourager.
Eh bien, écoutez, c'est sur cette exhortation que... Oui, monsieur. La dernière, alors. Allez-y.
Quel est le salaire moyen ?
Très difficile à dire. Très difficile à dire. Il n'y a pas de salaire moyen dans le sens où vous avez des gens qui gagnent aujourd'hui extrêmement bien leur vie et même beaucoup mieux que nous. Dans la bourgeoisie chinoise, aujourd'hui, on a des salaires de 10 000 euros, 20 000 euros sans problème. Mais on a encore des ouvriers, si on prend le salaire moyen ouvrier, mais qui n'est pas non plus le cas de toute la Chine, mais qui est, disons, le cas d'à peu près 100 millions de Chinois. Le salaire moyen est dans une fourchette allant entre 200 et 500 euros par mois. Mais il faut voir qu'en Chine, avec 200 ou 500 euros, on fait quand même beaucoup plus de choses qu'on ne fait en France.
Thank you.
Oui, alors une question un peu perfide pour terminer. Vous avez évoqué l'évolution politique de la Chine vers ce qui serait peut-être une démocratie socialiste. Mais est-ce que le concept même de démocratie est applicable à un peuple de 1,5 milliard de personnes ?
C'est toute la problématique, c'est tout l'argument du régime chinois aujourd'hui qui effectivement monte ça au créneau. Alors, il y a généralement deux arguments qui sont avancés. Le fait qu'il n'y a pas de précédent dans la culture chinoise et le nombre. Mais malheureusement, il y a deux réponses contradictoires. Parce que pour le nombre, il y a l'Inde, bon, qui marche comme elle marche, mais qui est néanmoins une démocratie. Et pour la culture, il y a Taïwan, qui est rentré, qui est quand même un pays de culture chinois, et qui est rentré dans un non seulement dans un processus, mais réellement dans une démocratie depuis la fin des années 80. Qui est un petit pays. Mais encore une fois, pour le nom, il y a l'Inde, qui est pratiquement à population équivalente avec la Chine.
Merci, merci beaucoup, Caroline, pour ces nombreux éclaircissements. Merci.